Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On essaie toute cette semaine de se souvenir des traces laissées par le Covid-19 dans nos vies et en particulier par les confinements successifs auxquels nous avons tous et toutes été astreints. Aujourd'hui, on évoque notre rapport à la loi qui devient soudain quotidien. On nous interdit de sortir, nos mouvements sont limités dans l'espace et dans le temps. Et en même temps, on s'autorise soi-même des déplacements. Avec le recul, c'est un peu ridicule le côté « tiens, si je m'autorisais un truc ». Nos interactions aussi sont contraintes et réprimées par la loi. Les forces de l'ordre distribuent des amendes à ceux qui l'enfreignent et ils sont nombreux à chercher comment contourner des règles qui leur semblent absurdes, mal comprises ou impossibles à respecter. On en parle aujourd'hui de ceux qui ne respectent donc pas le confinement, qui osent se déplacer, interagir, se toucher, un truc de fou, se réunir pour différentes raisons, parfois vitales. On se souvient qu'ils suscitent parfois la révolte, qu'on les accuse de mettre la vie des autres en danger, qu'il y a de la délation, des dénonciations entre voisins. Et aujourd'hui, avec le recul, on se dit aussi quelquefois qu'on y est allé un peu fort, que cet état de guerre dans lequel ont été précipités nos corps et nos vies a laissé des personnes brisées, des relations abîmées, des deuils en suspens. Tout de suite donc, le confinement et comment y échapper, un recueil d'archives choisi par Valérie Borst.
Je m'appelle Lolita. J'ai 20 ans et je viens de Bordeaux. Je suis étudiante en lettres et langues espagnoles. Parallèlement à mes études, je suis escorte. C'était très compliqué avec ma mère et j'ai commencé à être à la rue parce que ça alternait quand son petit copain venait, je devais partir. C'était très compliqué d'enchaîner les cours, les squats et tout ce qui suivait derrière. Et ce qui fait que j'en suis arrivée à devenir escorte. Je cherchais de l'argent très rapidement. Pour moi, cette activité, elle me sert à vivre, pouvoir m'acheter à manger, payer mon loyer, toutes les dépenses obligatoires de la vie. Et ça me permet également de pouvoir me faire plaisir. Parce que sinon, je pense que si je faisais ça juste pour les dépenses obligatoires de la vie, je continuerais pas. Il y a beaucoup de personnes qui jugent. C'est pas eux, plus tard, qui auront ma vie. C'est pas eux non plus qui vont me donner à manger. C'est pas eux qui vont me donner un toit. Donc, c'est vrai que maintenant, je passe vraiment outre les critiques et je vis ma vie. Quand le confinement a commencé, j'étais devant l'annonce de Macron. J'étais avec mes amis au moment où il a annoncé qu'il y avait le confinement, on a tous sauté de joie. On était contents, on s'est dit chouette, ça va être génial. Sauf qu'au final, ça a été génial une semaine. Après, c'est vrai que l'argent a commencé à manquer, on avait fait des stocks de nourriture, d'un peu tout. J'étais confinée avec mon petit copain qui est mon ex maintenant et mon meilleur ami. Et au début, je voulais pas pratiquer mon activité d'escorte. Sauf que au bout d'un moment, j'ai été obligée d'y aller. J'avais quand même vraiment peur parce que de un, il y avait une amende de 135 €. Donc c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit si je mets que je vais travailler, ça peut passer. Sauf qu'au fait, non, pas du tout. Donc je me suis jamais pris d'amende, mais j'ai été contrôlée par la police une fois. J'ai menti, j'ai dit que j'allais voir ma grand-mère, qu'il fallait que je lui apporte des médicaments et tout ça. Pourtant, j'allais pratiquer mon activité, mais c'est vrai que je pouvais pas me permettre de payer 135 € d'amende alors que fallait d'abord que je paye tout ce que j'avais à côté. De base, dans une journée normale, sans confinement, sans Covid, je peux avoir jusqu'à 40 messages par jour. Pendant le confinement, j'avais pas beaucoup de clients, ça allait plus entre 2-3 grand maximum par semaine, sachant que beaucoup voulaient négocier. Ils me disaient « oui, écoute, on est en période de confinement, de Covid, je prends des risques, donc tu pourrais bien faire un petit effort sur le tarif ». Ou sinon, c'était directement, je sais qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de clients. Moi, je suis un client et je suis, on va dire, rare, entre guillemets. Et donc, du coup, pour 30 minutes, tu feras 80 ou 100 euros, pas plus. Normalement, mes tarifs, c'est par exemple 150 pour 30 minutes, 250 pour une heure. J'ai vraiment essayé de les maintenir, mais c'est vrai que parfois, ça m'arrivait une ou deux fois de céder à des négociations. Pour par exemple 80 ou 100 euros pour 30 minutes, ou 200 de l'heure, j'étais bien obligée parce que sinon, quand je vois que le frigo était vide, on était trois et du coup, je nourrissais tout le monde. Quand je voyais la courbe des nouveaux cas, des décès, je me suis dit peut-être que la prochaine fois ce sera pour moi. Parce que c'est vrai que je voyais des gens de toute la France, mais vraiment toute la France, parce qu'il y avait quand même des déplacements professionnels malgré le confinement. C'est vrai que quand tu te retrouves face à un client qui a un rhume et que tu as besoin d'argent, tu peux pas refuser. Généralement, je me déplaçais à domicile parce que normalement, je fais aussi des plans voiture. J'ai dû en faire quelques-uns. C'est lorsque le rapport se fait dans la voiture, mais vraiment pas beaucoup parce que bon, les plans voiture, c'était beaucoup plus risqué que d'habitude. Dans les clients qui venaient pendant le confinement, il y en avait beaucoup qui venaient pour le travail, donc ils avaient envie d'une petite compagnie. Il y avait aussi des hommes mariés, mais qui étaient confinés ailleurs que leur femme. Donc c'est à ce moment-là où je me déplaçais à domicile. Des hommes tout seuls aussi. Eux, ils n'étaient pas plus solidaires. Généralement, tous les clients que j'ai pu avoir pendant le confinement, le Covid, ils s'en fichaient. J'ai essayé de mettre en place des gestes barrières. Sauf que ça demandait de faire baisser les tarifs, parce que du coup, il n'y avait plus de bisous. C'était beaucoup moins glamour avec un masque. Pareil pour le gel hydroalcoolique, il y avait toutes les excuses possibles et imaginables. Ça me pique les mains. J'aime pas ça. Je me suis dit, il va bien falloir que ça se passe sans geste barrière, parce que sinon, ça se passera pas du tout. Donc, obligée de fonctionner comme ça. C'est vraiment profiter d'une situation de détresse. Et dans cette période, ce qui me gênait, c'était que les travailleurs du sexe, on était vraiment très très oubliés. Parce que certes, pour je pense 80-90% d'entre nous, on n'est pas déclarés. Sauf qu'au final, on participe quand même à la vie de la société. Donc c'est vrai qu'une aide, ça aurait permis justement de pouvoir rester chez nous, de subvenir à nos besoins, sans avoir le stress de comment on va manger demain, est-ce que demain on va pouvoir payer notre loyer. On devrait tous être solidaires, que ce soit travailleuse du sexe ou pas, parce que c'est une période qui est compliquée pour tout le monde. On est vraiment tous dans la même galère, on va dire. Tout le monde peut attraper le Covid. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches, c'est vraiment tout le monde. Donc on devrait vraiment tous s'entraider parce que sur ce coup-là, on est vraiment égaux.
Dans la rue, on voit tout le monde parler de Corona. Nous, on n'a pas télé, tu vois. Il y avait un monsieur, tu vois. Et quand j'étais chez lui, j'ai regardé la télé. Ça m'a bouleversé. Quand les infos, ils te mettent en alerte, on boucle. Et nous, dans la rue, on ne sait rien, tu vois. Coronavirus, c'est comme la tuberculose, mais ça tue plus vite. On est des Africains, on est des Maghrébins, on est des Français, on est des humains, tu vois. Et tous ces gens-là, ils sont là. L'hygiène, il n'y a pas. J'ai peur qu'il n'y a pas de solidarité, tu vois.
Ah, parce que je suis en Belgique, on est là.
Vivons la fin du coronavirus,
qu'on refasse la fête.
Dis-leur qu'en attendant, les pauvres, ils ont fait, ils veulent manger.
Bien dit.
Je m'appelle Bachir El Amrani, je suis intervenant social dans un lieu de mise à l'abri dans le 5e. Mes problématiques par rapport au coronavirus, c'est que nous, il n'y a rien qui a été mis en place, si ce n'est le communiqué du gouvernement. Bah, énormément de gel hydroalcoolique. Les peu de masques qu'on a, c'est des masques basiques. C'est pas le masque vraiment filtre de particules, etc. On n'en a pas. Du moins, la commande n'a pas été faite pour le moment. Et en plus de ça, le plus dangereux, c'est que nous, on reçoit du public à risque. Je vous donne un exemple. J'ai reçu une famille la semaine dernière qui, deux semaines avant d'arriver dans mon centre, sont passées par Ventimiglia, par une frontière italienne. Et nous, derrière, on est confrontés directement à elle. Moi, ce matin, je donne un exemple, là, j'ai 43 personnes dans mon centre. Sur les 43, j'ai que des familles avec enfants. Et on a, moi, j'ai 3 enfants. Le fait de rentrer chez moi, j'ai une petite boule au ventre en me disant je les mets en danger. La seule chose pour me prémunir, c'est le gel hydroalcoolique que je mets à tout bout de champ sur mes mains. Et puis moi, faut savoir quelque chose, c'est que on peut pas me dire de fermer, on va les mettre où les familles? Vous savez, toutes les deux nuits, on reçoit 46 personnes. Sur 46 personnes, ça fait 20 familles à peu près. On a des familles avec des pathologies lourdes médicales, on a des familles avec des enfants handicapés, on a des familles enceintes à terme. C'est pas enceinte de 6 mois, on a des femmes enceintes de 9 mois qui doivent accoucher dans 2 semaines, dans 1 semaine. On ferme notre centre, on fait comment? On les remet à la rue. Moi j'ai des collègues qui ont déjà arrêté de travailler, qui se sont déjà mis en arrêt maladie, etc. pour le coronavirus. Peut-être que mes chefs ne vont pas aimer ce que je dis, mais c'est la vérité. Les accueils de jour vont toutes fermer un par un, parce que ces accueils ne sont pas protégés. Les intervenants qui travaillent sur ces sites ne sont pas protégés. Ça fait très longtemps que je fais ce métier et que je me dis, si je le fais pas, on va fermer mon centre. Pour moi, c'est pas une solution et pour moi, humainement, je ne peux pas le faire. De toute façon, si je suis contaminé, je le suis déjà. J'ai pas la prétention d'avoir des solutions, honnêtement, on est pris de court. Déjà que nous, on travaille déjà dans l'urgence toute l'année, que ça soit matériellement, que ça soit humainement, que ça soit, on est tout le temps dans l'urgence. Moi, honnêtement, je suis pas bien en ce moment. Je pense trop aux familles et je me dis, c'est pas cool. Nous, on est bien, on a notre petite vie, malgré que voilà, il y a le virus et c'est très grave ce qui se passe en ce moment. On est quand même chez nous, on rentre chez nous le soir, on a quand même cette bienveillance de notre famille, on a ce bien-être. Mais ces gens-là qui vivent à la rue, ils n'ont pas ce bien-être. Eux, ils ont la maladie, plus la rue, plus... c'est difficile. C'est difficile pour eux. Parce que c'est eux les premiers dans la ligne de mire du coronavirus. C'est dans ce sens-là, moi, je veux qu'on commence à réfléchir, à trouver des solutions qui vont se pérenniser le temps qu'on trouve une solution pour ce virus. C'est tout. Parce que enfermer tout le monde chez soi, je veux bien. Mais les SDF, ils sont pas de chez soi. Donc on les enferme où?
Bonjour, oui, vous êtes. Excusez-moi, à midi, j'étais partie chez des amis en face. J'étais un peu traînée. Allô?
Oui, rebonjour.
Alors, mon prénom, c'est Anne-Marie. Je vais avoir 78 ans. Et j'habite Chaumacourt, et dans le département de l'Eure. Depuis 1964, j'habite la maison où je suis encore. Et j'ai un ami, depuis que mon mari est décédé, enfin. Et puis, 5-6 ans après son décès, c'est un ami de la famille, quoi, Daniel. On est chacun chez nous. Bon, moi, ce qui me coûte maintenant, parce que, bon, Daniel venait tous les soirs. Maintenant, on se voit plus dans les mêmes conditions, disons. Et donc, c'est comme ça qu'on a dit, d'après tout, le seul moyen qu'on puisse se rencontrer une fois dans la semaine, dit, je vais faire mes courses à Super U. Mais je dis, bon, mais moi, je vais venir à Super U aussi. On se donne rendez-vous comme des jeunes amoureux. Je sur le parking du petit Super U, parce qu'on n'a pas trop le droit non plus de se déplacer de village en village. On a, vous savez, le parking, il est grand et puis on n'a aucun problème. Hein. T'as rencontré un tel m'a téléphoné, es-tu au courant de ci, il s'est passé ça. Et puis bon, bah, c'est-à-dire que je lui prépare des petits plats parce que un homme tout seul, c'est pas toujours facile. Préparer son déjeuner, son dîner, enfin. Alors, je cuisine quelques trucs. Par exemple, j'avais acheté des asperges. Je lui dis, bon, bah, tu vois, tu les mets à l'eau bouillante pendant un quart d'heure. Bon, mais ça, il va savoir le faire. J'ai cuit un artichaut, je lui ai cuit une cuisse de canard, j'ai fait un autre petit truc à côté, des œufs avec du thon. Enfin, je lui prépare des choses et puis il vient les chercher à Super U. Je me suis jamais fait prendre. Hein. Mais j'avais ma feuille de laisser-passer où je mettais que je pouvais aller chez le docteur, chez le pharmacien. J'avais toujours un prétexte. Hein. Au moment que j'avais mon papier avec moi, ils m'ont rien dit. Hein. J'ai été contrôlée une seule fois. Les gendarmes m'ont arrêté en me disant « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai écouté. En arrivant, j'ai écouté, il faut bien que je me nourrisse. Alors, bon, ils m'ont rien dit. Hein. J'avais l'excuse de la pharmacie. Et puis bon, bah, ils sont sympas, hein, les gendarmes ici, on les connaît à peu près. Dans notre région, c'est comme ça. On se connaît tous, pour ainsi dire. Et puis mes voisins, bon, ils traversent la route, on se voit quand même. Vous voyez, à la campagne, hein. On se parle à distance, mais on se voit quand même. Hein. Ça n'a pas changé grand-chose. Nous, dans nos campagnes, le confinement, on l'a fait, si vous voulez. Et ce que je fais, moi, c'est pour vous, c'est la vie, hein. Vous êtes tellement nombreux. Il n'y a pas assez de précautions de prise. On ne peut pas prendre autant de précautions, c'est pas possible.
C'était un tracteur qui passait ?
Oui, c'est des tracteurs qui sont passés. Mais vous savez, les agriculteurs ici, ils doivent travailler. Hein. Ils sont en train de planter les pommes de terre, ils ont semé les betteraves. C'est un village agricole ici. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Et ben moi, je m'appelle Laura, j'ai quoi, j'ai 31 ans, j'habite en Ariège, dans les Pyrénées, à 1 heure au sud de Toulouse. J'habite sur une ferme collective, donc moi là, je suis confinée, mais je suis confinée sur 38 hectares. Je suis dehors au soleil, en face de la forêt, entourée de chiens et de brebis. Et ouais, je passe toute ma journée dehors à faire des clôtures, essayer d'amener l'eau aux brebis, faire tout ce que j'ai à faire sur la ferme. Donc c'est un confinement assez spécial où j'ai besoin d'une attestation pour aller d'une parcelle à l'autre de ma ferme, parce qu'il y a des patrouilles mobiles de flics qui contrôlent les paysans, apparemment. C'est assez étrange. Et voilà. Depuis une dizaine d'années, j'élève des brebis avec Mélanie. Alors, on a à peu près 80 brebis. On élève les agneaux pour la viande et pour la laine. On est en bio et on fait de la vente directe. Ça veut dire qu'on vend nos agneaux découpés sous vide, en colis. Quand on a appris l'annonce du confinement, moi, ça m'a fait un peu stresser par rapport à mon activité. Là, c'est les mises bas, donc c'est vraiment particulier, où on fait du 7h30, 19h30. Enfin, là, nos brebis, elles mettent bas une soixantaine d'agneaux. Il faut vraiment être tout le temps là, en fait. Le premier jour du confinement, ma première peur, c'était surtout par rapport aux rations, parce qu'en fait, on a subi 2 années de sécheresse et qu'on a de la mauvaise herbe pour nos brebis et que du coup, on a dû les complémenter en luzerne. On a appelé toutes les coopératives agricoles, on a dû aller quand même assez loin pour trouver de la luzerne. Ça m'a fait flipper. Après, moi, ce qui m'a rendu folle de rage, hein, c'est après l'annonce du gouvernement qui ont interdit les marchés de producteurs, mais qui ont gardé les grandes surfaces ouvertes. En fait, encore une fois, c'était la victoire de la grande distribution et de l'agriculture industrielle, et qui gagne jusqu'au bout, quoi, et qui écrase les paysans jusqu'au bout. Mais moi, ça m'a rendu complètement folle de rage. Et surtout, j'ai pensé à tous mes potes paysans, paysannes, qui vivent des marchés. De quoi ils allaient vivre ? 2 mois sans marché, en fait, ça peut asphyxier une femme. Enfin, vraiment. J'ai d'abord appelé tous mes voisins et je leur ai dit, écoutez, voilà, moi, il y a tant de fromages à vendre cette semaine. Bah, nous, on va chercher les fromages, on fait les commandes, on fait la distribution. On a fait ça la semaine dernière. C'était plutôt chouette. On a réussi à écouler l'équivalent d'un marché pour des copains producteurs de fromages. Alors, c'est pas vraiment des marchés clandestins, c'est pas du tout des marchés même, parce que ça nous semble quand même important de pas rassembler les gens à un endroit. Mais ce qu'on a fait, c'est on essaie de mettre en place un système de commandes, de paniers en fait. C'est une chose plutôt chouette. Après, c'est quand même fou que tout le monde se rende compte que oui, on habite à la campagne et oui, tous nos voisins sont paysans en fait. Et oui, tous nos voisins produisent de la bouffe. Il faut quand même passer par une crise sanitaire pour se rendre compte de ça. C'est dingue. De toute façon, en fait, on sort. Moi, je suis sortie 2-3 fois depuis le début du confinement. C'est plus compliqué de voir mon copain qui habite à 20 minutes de route qu'il faut que j'ai une attestation et qu'il faut que je monte à des flics. Après, il y a quand même un réseau en Ariège participatif qui indique où est-ce qu'il y a des contrôles de police et c'est assez facile de les éviter. Le territoire est trop vaste et trop peu peuplé pour qu'il puisse être totalement contrôlé, en fait. Enfin, les gens circulent quand même. Moi, pour ma part, ce que je perçois directement autour de moi et de mes voisins, les gens quand même s'en foutent pas mal, quoi, de ce qui se passe. Enfin, je trouve que c'est quand même pris vraiment très très à la légère. Et bien qu'ils respectent le confinement, bon, c'est pas quelque chose de très très grave qui se passe. Ça va passer et puis voilà, ça redeviendra comme avant.
Moi, c'est Benjamin, donc j'ai 26 ans. Là, actuellement, je suis vendeur au Jouet Club de Mondeville, l'endroit où il y a un grand centre commercial, en fait, auprès de Caen, quoi. Je suis confiné chez moi à domicile, enfin, je ne sors pas du tout, quoi. Alors, donc, du coup, donc, vendredi, donc, avant qu'il y ait le confinement et tout, en fait, donc, avec ma sœur, on a appris que ma grand-mère était en train de partir. Elle était vraiment très mal portante, en fait, elle n'est pas morte du coronavirus. Son état de santé s'est vraiment dégradé au fur et à mesure, quoi. On a passé vraiment tout le week-end à l'hôpital auprès d'elle pour... chacun son tour aller faire des adieux à la grand-mère, enfin du moins pour la citer déjà jusqu'à la fin, jusqu'à ces derniers moments, pour passer un petit peu de temps avec elle, quoi. À l'étage où était ma grand-mère, il y avait déjà quelques petites consignes qui étaient mises en place, donc une seule personne dans la chambre. Tout entrée du couloir, en fait, vous avez une petite table avec des consignes écrites sur la table, avec du gel hydroalcoolique, tout simplement. Ensuite, lundi, elle est décédée, donc en même temps qu'on a annoncé le confinement total. On a vu avec les pompes funèbres et tout ça, en fait, comment s'organiser avec l'hôpital aussi. Ma grand-mère souhaitait vraiment une cérémonie de base dans une église. Disons que c'était quand même assez dur. On a vraiment essayé de faire, enfin de respecter au maximum son choix, quoi, malgré les circonstances, quoi. On a été obligé d'accepter la situation telle qu'elle était, quoi. Donc une fois que le cercueil est rentré dans le camion pour emmener au cimetière, nous on s'est tous rendus au cimetière aussi. De toute façon, pour l'enterrement, on était 15 personnes. On s'est vraiment limité en dessous du nombre qu'on nous avait dit, en fait. On nous a dit 20 personnes maximum, mais on était 15. On était vraiment tous espacés. Et après, donc, il n'y avait pas de fleurs, parce que du coup, les fleuristes étaient fermés, malheureusement. On s'est vraiment contenté du strict minimum, quoi. On a eu un prêtre qui nous a fait une cérémonie dans l'allée principale. Donc, il y avait le cercueil en plein milieu de l'allée, puis bah, nous qui étions autour, quoi. Puis ça rend vraiment la scène assez bizarre, quoi, en soi. C'est vraiment triste, quoi. On a échangé quelques mots pendant 5 minutes, et puis après, oui, on est tous repartis chez nous, quoi. On est parti du cimetière de Guibray pour se rendre vers Caen. Et là, on s'est fait arrêter au rond-point de Carrefour, donc c'est-à-dire à quoi, même pas un kilomètre du cimetière. Je descends mon véhicule tranquillement, je demande au gendarme, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Un monsieur qui devait avoir à peu près la trentaine. Donc pour lui, c'était inadmissible d'assister à un enterrement, parce que pour lui, il n'y avait aucun lieu d'avoir des réunions familiales pendant cette période-là. Je commence à expliquer, je fais « Excusez-nous, monsieur, on sort d'un enterrement, on a une autorisation de la part de l'hôpital et des pompes funèbres pour le faire. Pour moi, je suis vraiment dans les règles, quoi. Enfin, je fais « Nous, on a tout fait pour les respecter. » Ils nous ont dit que c'était pas valable et nous mettaient quand même l'amende, tout simplement. J'ai demandé d'essayer de nous comprendre, en fait, vu la situation, quoi. Enfin, je fais « Disons qu'il y a un moment, il faut être un petit peu humain avant de faire passer la loi, quoi. » Le ton est très monté et ma sœur, d'un seul coup, s'est vraiment mise à éclater en sanglots. Et là, en fait, ce qui s'est passé, vraiment une situation vraiment très, très étrange, c'est que les gendarmes ont abandonné et sont partis, en fait, sur un autre cas, en fait. Ils nous ont laissés pour compte sur le trottoir, en fait. Hein, on n'a vraiment pas compris sur le coup. Ça fait 4 fois 135, donc ça fait 520 €, quoi, à peu près. J'ai jamais eu une seule amende de ma vie. La première que je reçois, c'est pour avoir enterré ma grand-mère, quoi. Là, sur le coup, j'ai vraiment pris une claque dans la gueule, quoi. These things, they make us sentimental inside. Your words are gel ignite, or just another sentimental aside. We're catching bullets in our teeth, and though it's easy if you know how it's done. C'était Le confinement et comment y échapper, un recueil d'archives choisi par Valérie Borst. Reportage Pauline Verdusier, Clément Baudet et Valérie Borst elle-même. Réalisation Anne-Laure Chanel. Merci à Emmanuel Geoffroy, à Valentin Rémy et à Luce Mourant qui est notre nouvelle stagiaire. Our blood and guts are out. We spread our bones across the table at night. We cut our fingers off to give ourselves those little extra insights. We're catching bullets in our teeth, and though they try hard not to say how it's done, they always do. They spill the secret our six ways and beg for our forgiveness just before dawn. And now we don't remember. We're catching bullets in our teeth. It's hard to do, but they taste sweet. And if they take a couple out, we try to work things out. We're catching bullets with our heads and hearts and all the darkest parts of us. It's strange to find such lights in such endless nights. Don't remember.